Welcome to the debate. Bienvenue dans cet espace d'analyse croisée et de pluralité des perspectives. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous, vraiment au quotidien.
Tout à fait.
C'est notre rapport à l'information. Parce que pendant des siècles, notre façon de consommer l'info, ça fonctionnait un peu comme la cartographie classique.
C'est une bonne image, hein.
N'est-ce pas ? Quand on voulait connaître la forme du monde ou comprendre une réalité géopolitique ou même sociale, on consultait une carte et cette carte, elle était dessinée par des cartographes officiels.
Des professionnels, oui.
Exactement. Et surtout, cette carte, elle était fixe, elle était publique et c'était la même pour absolument tout le monde. Si une montagne ou un fleuve y figurait, tout le monde convenait que cet obstacle était bien là. En fait.
Oui, on pouvait se disputer farouchement sur la façon de franchir la montagne, par exemple, mais on s'accordait sur son existence.
Voilà, c'est exactement ça. L'espace public démocratique, au fond, c'était cette carte commune. Et le problème, c'est que c'est précisément cette fondation qui est en train de se fissurer aujourd'hui.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Donc, en nous appuyant sur le livre blanc de la 2i de 2026, donc, je rappelle le titre, c'est « Après les journalistes, après les influenceurs », nous allons décortiquer la transformation vraiment radicale de la fabrication de nos opinions d'ici 2035.
Un horizon pas si lointain, finalement.
Non, c'est demain. En fait, la convergence des smartphones, des algorithmes de recommandation et de l'intelligence artificielle, ça déplace une frontière qui est fondamentale. L'information brute, aujourd'hui, elle n'a plus aucune valeur intrinsèque.
Ouais, elle est devenue totalement surabondante.
Exactement. Et donc, c'est la confiance, une confiance vérifiable, qui devient la ressource ultime. Et personnellement, je suis convaincue que cette bascule, si elle est bien sûr encadrée par des méthodes de traçabilité rigoureuses, elle va démocratiser l'information et redonner une valeur suprême au journalisme de terrain.
D'accord, mais sauf que la carte dont vous parlez, elle n'est pas simplement en train d'être mise à jour par des nouveaux outils. Elle est, à mon sens, en train de se fragmenter à un niveau purement individuel.
Comment ça, individuel ?
Eh bien, la trajectoire que décrit ce document, elle nous mène vers un monde où la carte se redessine en temps réel, sous nos yeux, mais uniquement pour nous. Je veux dire, ma carte me montre des vallées accueillantes remplies de mes convictions personnelles, là où la vôtre affiche des falaises inaffranchissables, par exemple.
Je vois le biais de confirmation poussé à l'extrême.
Absolument. Je pense au contraire que l'industrialisation massive de la production par l'IA et cette personnalisation extrême algorithmique, ça va détruire cet espace public commun dont vous parliez. On n'est pas du tout à l'aube d'un nouvel âge d'or de l'information certifiée. On est plutôt face au déploiement d'une persuasion qui sera totalement invisible et qui va rendre obsolète toute tentative de vérification humaine centralisée.
Eh bien, c'est un diagnostic très sombre, mais regardons d'abord ce qui se passe à la base même de la production, si vous le voulez bien.
Allez-y.
Le document de la 2i, il met en lumière une transition que je trouve fascinante vers ce qu'ils appellent le journaliste augmenté ou le créateur augmenté. Historiquement, le pouvoir des médias traditionnels, ça reposait sur quoi, Arrête ? Sur le contrôle de la rareté.
Oui, les barrières à l'entrée.
Voilà, posséder des rotatives pour imprimer du papier ou posséder des fréquences hertziennes, ça coûtait des millions. Aujourd'hui, on le voit bien, la caméra, le studio de montage, le réseau de diffusion mondial, tout ça, ça tient dans un simple smartphone.
C'est vrai, oui.
Et l'effondrement de ces barrières, c'est pas la tragédie que certains décrivent. C'est en fait la rencontre organique entre une offre technologique et une vraie demande du public.
Une demande pour plus de proximité, vous diriez ?
Absolument. Le public s'est détourné des médias institutionnels parce qu'il cherchait de l'incarnation. Et l'IA vient s'insérer là-dedans, non pas pour remplacer la réflexion du journaliste, mais pour éliminer la friction.
Éliminer la friction, c'est-à-dire ?
En automatisant des tâches chronophages. La transcription de 3 heures d'interview, la traduction simultanée ou le fait de décliner une enquête en de multiples formats. L'IA permet aux vrais professionnels de se concentrer sur ce qui résiste à la machine, en fait.
D'accord.
La machine, elle ne peut pas aller sur le terrain sous la pluie, tu vois. Enfin, elle ne peut pas capter le regard fuyant d'une source. Elle ne peut pas douter d'un communiqué de presse officiel. Et le pacte AI-Zoïni offre ce cadre. La machine fait la mécanique et l'humain apporte la garantie éthique.
Oui, bon, cette vision présuppose que l'IA n'est qu'un outil neutre, comme un simple stylo un peu plus rapide, quoi.
C'est un peu ça, oui, un super outil. Mais c'est une erreur de catégorie fondamentale. Le document qu'on étudie souligne très justement que l'algorithme n'est pas un assistant, il agit désormais comme un rédacteur en chef, fonctionnel. Un rédacteur en chef. Dans quel sens ?
Eh bien, un rédacteur en chef humain, Avec tous ses défauts, on est d'accord, il a pour mandat de hiérarchiser l'information en fonction de son importance civique ou de l'intérêt public.
Oui, selon une ligne éditoriale humaine.
Voilà. Alors que l'algorithme, lui, il est mathématiquement optimisé pour une seule et unique métrique, la rétention de l'attention. Et c'est là que la mécanique se pervertit complètement. Regardez les données de l'UNESCO mentionnées dans le texte. Elles sont implacables.
Les chiffres sur la vérification ?
Oui. Aujourd'hui déjà, 62% des créateurs de contenu ne vérifient pas systématiquement leurs informations avant de les partager. Et pire encore, 42% utilisent le nombre de likes ou de vues comme critère de crédibilité.
C'est vrai que c'est un chiffre inquiétant, je l'accorde.
Mais c'est parce que la boucle de rétroaction est cassée. L'influence est devenue, de fait, une industrie lourde de l'attention. Vous me parlez de l'humain qui va sur le terrain pour douter, mais le système économique de 2035 que décrit le scénario 3 du Livre blanc, il ne rémunérera plus ce doute.
Vous pensez que la vérification ne sera plus rentable ?
Bah pas du tout. Le système rémunérera la capacité à saturer l'espace de contenu généré synthétiquement, et ce, à un coût marginal proche de zéro. La vérification humaine centralisée, elle sera tout simplement balayée par le volume de cette production.
Je comprends la crainte liée au volume, vraiment. Mais c'est justement ce qui nous amène à la transformation interne des rédactions, qui est très bien détaillée dans le Livre blanc.
Oui, le fameux stress test.
Exactement. Le rapport propose cette hypothèse des 20% premium. Il faut qu'on visualise ce que ça signifie sur le terrain. L'idée, c'est que d'ici 2035, la majorité des tâches de rédaction de base sera automatisée, d'accord ?
Ouais.
Et que seuls 20% des journalistes actuels conserveront une valeur ajoutée vraiment irremplaçable. Donc, imaginez une rédaction classique de 100 personnes aujourd'hui, réduite à 30 personnes demain.
Et c'est précisément ce qui est terrifiant. Enfin, comment vous pouvez défendre un modèle qui ampute 70% des effectifs d'une profession, dont le rôle est justement d'observer la complexité du monde ?
Parce que la qualité ne dépend pas que du nombre, en fait.
Mais la force d'une rédaction de 100 personnes, c'est pas seulement sa capacité de production à la chaîne, c'est la diversité de ses regards. C'est le petit journaliste junior qui va remarquer un détail que le rédacteur en chef chevronné a complètement ignoré.
Je ne dis pas le contraire, la diversité est importante.
Mais c'est la multiplicité des sensibilités sur le terrain. Si vous réduisez tout ça à 30 super journalistes, comme vous dites, vous concentrez la narration du réel entre les mains d'une minuscule élite. On gagne peut-être en productivité financière pour les actionnaires, mais démocratiquement, on détruit le pluralisme, on détruit la profondeur de champ.
Je ne suis pas d'accord. Cette réduction numérique des effectifs, ça ne correspond pas à une réduction de la couverture du réel. Bien au contraire.
Ah bon ? Moins de journalistes, plus de couverture.
Absolument. Et pour comprendre ce paradoxe, il faut regarder comment travaillera ce journaliste de 2035. Le rapport l'appelle un architecte de déclinaison.
Un terme un peu barbare, non ?
Si, mais très juste. Laissez-moi vous donner une image. L'intelligence artificielle est au journaliste ce que l'imprimerie a été au moine copiste. D'accord ?
L'imprimerie, carrément ?
Bah oui, l'imprimerie n'a pas détruit le savoir. Au contraire, elle a libéré l'érudit de la pure exécution mécanique, de cette copie lettre par lettre, pour démultiplier sa capacité d'analyse et de diffusion. Aujourd'hui, prenez un grand reporter. Il obtient un document confidentiel sur un scandale de corruption, disons. Il doit passer des jours à écrire l'article de fond, puis il doit écrire le script pour la vidéo, puis un résumé pour la newsletter, puis un thread pour les réseaux sociaux. C'est épuisant.
Oui, c'est le travail journalistique moderne.
Sauf qu'en 2035, ce même reporter, il utilise son essaim d'IA. Il se concentre exclusivement sur l'obtention de la preuve humaine, le terrain, le contact. Dès qu'il a l'information validée, son IA génère instantanément les 15 formats nécessaires.
C'est de la magie, en somme.
Non, c'est de l'efficacité IA. La productivité n'est pas l'ennemi de la qualité ici. Elle est le seul modèle économique qui permet de financer des mois d'enquêtes exclusives. Le moine a arrêté de recopier. Le journaliste arrête de formater. Il ne fait plus que chercher la vérité.
Alors, cette analogie du moine copiste, elle est séduisante sur le papier. Mais elle s'effondre dès qu'on examine la nature technique de l'IA générative.
En quoi elle s'effondre alors ?
Parce que l'imprimerie de Gutenberg, c'était une technologie de reproduction fidèle. Elle prenait le texte du moine et elle le dupliquait à l'identique, sans en altérer un seul mot. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une presse mécanique.
C'est un outil d'adaptation du format, oui ?
Non, c'est un moteur probabiliste qui génère, qui hallucine et qui modifie la sémantique. Ce n'est pas un outil passif, c'est un co-auteur incontrôlable.
Incontrôlable, le mot est fort.
Mais c'est la réalité technique. Quand votre architecte de déclinaison confie son enquête brute à son essaim d'IA pour en faire une vidéo courte sur TikTok, l'IA va inévitablement lisser la nuance. Elle va amplifier le conflit pour maximiser l'engagement et potentiellement, elle va altérer le sens profond de l'enquête.
L'humain garde la main sur la validation pourtant.
Et il y a un enjeu cognitif majeur que vous ignorez complètement ici. Dans le journalisme, l'acte d'écrire n'est pas juste du formatage tac-tac-tac-tac. Écrire, c'est penser.
C'est vrai, oui.
C'est en rédigeant qu'un journaliste réalise qu'il lui manque une preuve, que tel argumentaire est faible. Si vous déléguez l'écriture à la machine, vous déléguez la pensée critique. Ce fameux contact humain de haute volée que vous espérez préserver, il va s'atrophier parce que le journaliste sera devenu un simple manager de prompt.
Je pense vraiment que c'est sous-estimer la capacité des professionnels à éditer et à maîtriser ces outils. La responsabilité éditoriale, elle ne disparaît pas, elle se déplace vers la validation finale.
Une validation qui sera expédiée en 2 secondes vu les impératifs de volume.
Je dis pas que ce sera facile, mais c'est faisable. Mais au-delà de la production pure, si on le regarde, ce qui change fondamentalement la donne dans ce rapport, c'est l'évolution du public lui-même.
L'audience, oui.
Oui. Les médias traditionnels ont trop longtemps parlé au public d'une manière incroyablement descendante, voire arrogante. Si les citoyens fuient vers les créateurs, c'est un choix actif.
Un choix par facilité, souvent.
Pas seulement. Ils recherchent un langage direct, de la pédagogie, ce fameux « voilà pourquoi cette information va impacter votre quotidien ». Et la beauté du pacte à 2i, c'est qu'il acte que la méthode, la rigueur, devient le nouveau terrain commun.
La méthode, oui, en théorie.
Peu importe que vous ayez une carte de presse historique ou que vous soyez un climatologue avec 1 million d'abonnés sur une plateforme vidéo, ce qui compte, ce sont les 5 questions confiance.
Ah, ces fameuses questions. Listez-les pour voir.
Eh bien, qui parle? Comment le sait-il? Qui le finance? Pourquoi cela m'est-il montré? Et qui répond si c'est faux? Regardez la maturité actuelle du public face au contenu sponsorisé, par exemple.
Ouais. Il repère les placements de produits.
Immédiatement. Il repère un placement dissimulé en 1 seconde. Pourquoi pensez-vous que le citoyen de 2035, armé de cette grille de lecture méthodologique, il serait incapable de déjouer les biais de son IA? Le public apprend, il s'adapte à chaque nouvelle technologie médiatique.
Franchement, c'est faire preuve d'une immense naïveté face à l'infrastructure qui se met en place.
De la naïveté.
Oui, vous imaginez un citoyen actif, rationnel, qui s'assoit avec son petit carnet de notes méthodologique pour évaluer sereinement chaque information. Or, regardez les comportements actuels sur les réseaux. La lecture longue, la recherche volontaire d'informations, ça a déjà perdu son statut de comportement par défaut.
Oui, l'usage a changé vers la vidéo courte, c'est un fait.
L'information n'est plus un rendez-vous que l'on va chercher activement. C'est un flux vidéo ininterrompu, un scroll infini qui vient court-circuiter votre attention. Mais projetons-nous en 2035, là où le rapport identifie la véritable rupture.
La disparition du moteur de recherche.
Exactement. Le remplacement par l'assistant IA personnel. Aujourd'hui, si nous tapons la même requête sur Google, vous et moi, on obtient globalement les mêmes résultats.
La même carte, pour reprendre notre métaphore du début.
Voilà. Mais demain, votre agent conversationnel lira tout le web et vous fera un résumé oral direct, juste pour vous. Et cette hyper-personnalisation devient alors un poison invisible.
En quoi c'est un poison si l'information factuelle de base reste correcte? Je veux dire, si mon assistant me résume un texte de loi de manière plus digeste pour moi, c'est plutôt une grande victoire pour l'accessibilité citoyenne, non?
Sauf que l'assistant ne fait pas que vulgariser ou résumer. Il recontextualise en temps réel pour optimiser votre engagement psychologique.
C'est-à-dire ?
Le mécanisme est redoutable. Imaginez, votre agent IA, il a accès à tout votre historique. Il sait que vous passez 40% de temps en plus à lire des articles anxiogènes sans l'inflation. Eh bien, il va automatiquement réécrire le résumé d'un projet de loi environnemental pour mettre en avant ses coûts cachés et son impact sur vos impôts.
D'accord, il cible mes préoccupations.
Mais si votre voisin est identifié par le système comme éco-anxieux, la même IA lui résumera la même loi en soulignant exclusivement les bénéfices pour la biodiversité et les émissions de carbone.
Oui, je vois le danger.
L'algorithme ne cherche pas la vérité objective, il cherche la résonance émotionnelle. Comment voulez-vous que les citoyens appliquent vos 5 questions de confiance alors qu'ils ne savent même pas que l'information a été chirurgicalement remodelée pour exploiter leur biais cognitif intime?
C'est sûr que vu sous cet angle...
La persuasion n'est plus un argumentaire public qu'on peut débattre sur la place du village. Ça donnait une manipulation intime et silicieuse. 2 citoyens ne verront plus jamais la même réalité. C'est l'atomisation absolue de l'espace public.
D'accord, je vous accorde que si l'agent IA personnel devient une boîte noire complètement incontrôlable, le risque d'enfermement idéologique est réel. Et c'est un défi immense.
Un défi mortel pour la démocratie ?
Peut-être. Mais vous partez du principe que nous allons subir cette architecture sans développer d'anticorps systémiques. Face à cette menace de l'hyper-personnalisation et, disons, des hallucinations algorithmiques, la réponse n'est pas seulement intellectuelle ou morale, elle est structurelle et technologique.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien, c'est la grande bataille de la traçabilité et de la provenance de la donnée, le fameux standard cryptographique.
Ah, mais c'est une bataille que nous sommes en train de perdre avant même de l'avoir commencé. Avez-vous mesuré l'ampleur de ce que les experts appellent le SEO pour l'IA ?
L'optimisation pour influencer les réponses des intelligences artificielles. Oui, le rapport en parle longuement.
Concrètement, regardons comment fonctionne une IA générative quand vous lui posez une question. Elle n'a pas de conscience temporelle, elle utilise un mécanisme qu'on appelle le RAG pour Retrieval Augmented Generation.
Oui, elle va chercher des infos en temps réel.
Exactement, elle va scanner d'énormes corpus de données ou le web en temps réel pour agréger les informations les plus probables et formuler sa réponse. Eh bien, la nouvelle guerre de l'influence, elle ne consiste plus du tout à convaincre des êtres humains un par un sur un plateau télé.
Elle consiste à polluer les données.
Voilà, à polluer industriellement ces pipelines de données, des fermes d'influenceurs synthétiques, des entités numériques entièrement générées par des machines, publient des dizaines de milliers de faux articles, de faux rapports scientifiques, de faux blogs, dans toutes les langues imaginables.
Pour créer ce que le rapport nomme des consensus artificiels, c'est ça ?
C'est ça. Quand l'assistant IA du citoyen ira chercher l'information pour faire son fameux résumé dont vous parliez, il va aspirer ce faux consensus fabriqué sur mesure. C'est de l'empoisonnement de données. C'est une pollution industrielle en amont. Vos labels éthiques, vos questions de confiance, ça revient à essayer de purifier un verre d'eau alors que les usines déversent des tonnes de poison directement à la source du fleuve. L'IA va régurgiter des hallucinations manipulées avec l'aplomb absolu d'une vérité mathématique.
Mais c'est précisément pour contrer effet de pollution industrielle que la traçabilité cryptographique devient la seule issue viable.
Je vois pas comment.
Vous parlez d'empoisonnement des données, d'accord. Mais comment les systèmes d'IA de 2035 vont-ils sélectionner les données qu'ils ingèrent ?
Eh bien, par probabilité et volume, comme le RAG le fait aujourd'hui.
Non. Parce qu'ils ne pourront plus se baser sur le simple volume, justement parce que le contenu synthétique vaudra zéro. Le livre blanc A2i pointe vers l'émergence de standards techniques comparables aux normes C2PA qui existent déjà de façon embryonnaire aujourd'hui.
C2PA, oui.
Il ne s'agit pas d'une promesse verbale ou d'une charte de bonne conduite qu'on accroche dans le couloir d'une rédaction. On parle de métadonnées inaltérables qui sont intégrées dès la captation physique de l'information.
Et comment cette cryptographie empêche la machine de mentir, au final ?
Par la preuve d'origine matérielle et humaine. Quand un journaliste ou même un créateur citoyen sur le terrain en 2035, il va filmer une manifestation ou scanner un document, son appareil, au niveau matériel, au niveau de la puce, va sceller cryptographiquement le fichier.
Une signature numérique forte ?
Voilà, une signature qui dit en substance « Cette image a été captée par ce capteur précis à cette heure précise et l'humain responsable juridiquement de cette publication, c'est telle personne. »
D'accord, mais face à l'océan de faux ?
Face au déluge de contenu généré par des fermes de bots dont vous parlez, l'information non sourcée, elle n'aura plus aucune valeur marchande, zéro. Les géants de la technologie qui vendent ces assistants IA auront un impératif économique absolu de ne pas fournir des réponses totalement délirantes à leurs utilisateurs payants.
Un impératif économique, vraiment ?
Oui. Pour garantir la fiabilité de leurs propres produits, leurs algorithmes de RAG seront contraints d'ignorer ce bruit synthétique, ce poison. Et ils devront pondérer massivement leurs réponses en faveur des données signées cryptographiquement par des entités humaines juridiquement responsables.
C'est un pari audacieux sur le comportement des GAFOM, ça.
Mais l'histoire de la presse montre que le chaos génère toujours ses propres standards de confiance. Au XIXe siècle, face à la propagande anonyme prolifique, l'apparition de ce qu'on appelle l'ours du journal, le petit encart qui indique légalement le directeur de la publication, c'est devenu la norme de crédibilité.
L'ours, oui, c'est un bon point historique.
Et bien, la cryptographie, c'est l'ours du XXIe siècle. Le marché lui-même va imposer la traçabilité humaine comme condition absolue de survie économique.
Votre argumentaire est impressionnant de cohérence logique, je dois bien le reconnaître.
Merci.
Il y a une réelle élégance dans l'idée que le capitalisme technologique, pour sauver la valeur de son propre produit premium, devra au final se brancher sur l'intégrité humaine.
C'est le seul moyen pour eux de ne pas s'effondrer sous leur propre poids.
Mais, et c'est un grand mais, cette mécanique repose sur un postulat psychologique qui me laisse pour le coup profondément dubitatif.
Lequel ?
Vous supposez que les entreprises tech privilégieront la vérité cryptographique, même si elle est complexe, même si elle est ennuyeuse, ou même si elle heurte les convictions profondes de l'utilisateur, plutôt qu'une fiction générée qui serait confortable et hautement addictive.
Je crois que la vérité gardera une prime de valeur, ouais.
L'histoire des 15 dernières années de réseaux sociaux nous prouve, hélas, tout le contraire. L'industrie choisit toujours la friction cognitive minimale et l'engagement maximal. Toujours.
C'est vrai que le modèle actuel est basé là-dessus.
Cependant, pour synthétiser un peu notre analyse de ce livre blanc, il est indéniable qu'on partage un constat fondamental, vous et moi.
Lequel ?
La gratuité et l'abondance de l'information générée par l'IA ont tué la valeur du contenu brut. La rareté s'est déplacée. Elle ne réside plus dans le fait de savoir écrire un texte ou faire une vidéo, mais dans la capacité à prouver un fait, à engager sa responsabilité humaine dans un monde dominé par des machines.
Absolument. C'est le cœur du sujet. Et je retiens un autre point de bascule crucial sur lequel on se retrouve, c'est la mort définitive de la frontière statutaire entre les acteurs de l'information.
Ah oui, le clivage journaliste versus influenceur.
Voilà, le vieux débat stérile entre le noble journaliste avec sa carte de presse d'un côté et le vilain influenceur qui fait du divertissement de l'autre. Bah, ce débat, il est caduc en 2035.
Totalement obsolète.
Face à cette marée synthétique, le statut ne protège plus de rien. Seule la méthode compte en fait. Quand lanceur d'alerte indépendant utilise les standards cryptographiques, qu'il vérifie ses sources et qu'il rectifie publiquement ses erreurs, bah il sera un rouage de confiance infiniment plus solide qu'un média traditionnel qui se contenterait de reformuler des dépêches automatisées sans aller sur le terrain.
La fonction civique survit, mais elle se franchit des anciennes institutions.
Exactement.
Le diagnostic de ce décloisonnement, il est très clair, oui. Mais mon scepticisme structurel demeure intact, je vous préviens. La méthode dont vous parlez, la cryptographie, ce sont des digues rationnelles, c'est vrai. Mais l'infrastructure que nous construisons, elle est conçue pour exploiter l'irrationnel.
L'émotionnel, surtout.
L'hyper-personnalisation des assistants IA crée de micro-réalités qui sont tellement ciblées sur nos fragilités psychologiques qu'aucune signature numérique, aussi robuste soit-elle, ne pourra recréer l'expérience d'un récit collectif partagé. La manipulation algorithmique de 2035, ce ne sera pas forcément une suite de mensonges factuels grossiers que l'on pourrait fact-checker facilement. Ce sera un choix insidieux de mots. Ce sera un angle déformé. Une hiérarchie de l'information qui est subtilement biaisée pour nous plaire et nous retenir.
Je vois.
Et c'est là que la régulation par de simples chartes éthiques ou des outils de traçabilité me semble franchement tragiquement insuffisante.
Et c'est bien la raison pour laquelle le débat que nous avons aujourd'hui ne doit absolument pas rester théorique. L'intérêt majeur des prospectives comme celle de la N2I, bah c'est de nous montrer que 2035 s'écrit maintenant.
C'est ça. On n'a pas encore passé le point de non-retour.
Exactement. Nous ne sommes pas les spectateurs impuissants d'une dystopie technologique qui serait inévitable. La bascule entre, disons, un âge d'or où des créateurs augmentés produiraient une information ultra-pédagogique et vérifiée et le cauchemar d'une influence algorithmique indétectable, eh bien cette bascule dépend des exigences que nous imposons aujourd'hui, dès maintenant, aux concepteurs de ces outils.
Et aux législateurs. Il appartient à chacun de nous de comprendre l'architecture des plateformes qu'on utilise quotidiennement, de pas juste consommer aveuglément.
C'est clair.
C'est le seul levier d'action réel qu'on a. Il faut exiger la transparence algorithmique de la même manière que, par le passé, on a fini par exiger la liste des ingrédients sur nos produits alimentaires. Refuser la boîte noire, c'est refuser de se laisser enfermer dans une bulle de persuasion invisible.
Pour boucler la boucle, je voudrais revenir à la métaphore de notre ouverture, si vous le permettez.
La carte de géographie, oui.
Voilà. Les technologies génératives sont en train de remodeler la topographie même du réel. La prochaine fois que vous, auditeur, vous consommerez un contenu, que ce soit une vidéo courte sur un réseau ou le résumé généré par votre moteur de recherche habituel, posez-vous cette question vraiment vitale.
Laquelle ?
La carte du monde que l'on déploie sous vos yeux a-t-elle été tracée par un humain responsable qui s'est heurté à la dureté du terrain ? Ou vient-elle tout juste d'être synthétisée par une machine programmée uniquement pour flatter vos convictions et capter votre temps de cerveau disponible ?
C'est la bonne question à se poser, en effet.
Le choix de la source, en fin de compte, c'est le choix de votre réalité. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cet échange passionnant. Gardez l'esprit critique et à très bientôt.